Chapitre 55. Rien ne vaut la vie. Assise dans la chaise longue, Karine se fait une manucure. Depuis qu'elle est arrivée au sens perdu, ses ongles se sont cassés sur les travaux des champs, les fouilles, le potager. Le vernis s'est effrité comme une vieille peinture sur des volets en bois qu'on a oubliés. Elle s'est maquillée un jour sur deux, puis un sur trois, puis seulement pour retourner vers la civilisation, comme elle dit en riant, quand elle part faire les courses. Elle tourne avec deux pantalons, trois shorts et quelques t-shirts, ceux qu'on peut salir et même trouer en s'accrochant aux ronces. Elle en oublierait presque les rues piétonnes de Strasbourg, ses boutiques préférées. Flâner, essayer, reposer, demander une autre taille, craquer, regretter, revendre ou bien donner, chercher de la place dans son armoire et ne plus en trouver. Ici, la penderie est petite et les boutiques lointaines. Ici, on consomme local et sauvage. Le rouge des ongles est sur les coquelicots. Mais aujourd'hui, Karine veut se faire jolie, soin des mains et des pieds, même si elle enfilera des baskets pour enfourcher la moto. Des sous-vêtements en dentelle, un sac à dos discret pour glisser quelques vêtements de rechange, une petite robe légère, fluide, facile à enlever. Elle est excitée à l'idée de recommencer à jouer avec son corps, à lui donner du plaisir, à retrouver la jouissance dont elle était gourmande. Même si cela lui a fait faire de mauvais choix, suivre de mauvais hommes, se réveiller sous de mauvais toits. Comme Frédéric, Karine aime jouir de sa liberté. Trois petits tours et s'en iront. Peu importe si sa confiance est entamée quand il l'aura larguée, elle aura profité. Une fourmi se promène sur l'écarteur en mousse rose qu'elle a glissé entre ses orteils. Elle espère que la bestiole ne va pas se coller au vernis rouge en train de sécher. Le nail art serait original. Manucure, nature. Elle aperçoit Clémence qui se promène dans le jardin, son panier à la main. Elle prélève des pétales et de jeunes feuilles pour les fromages. Ici, les marmites s'activent, même le samedi. Karine n'aimerait pas vivre avec cette dépendance. Ne pas pouvoir partir en week-end sur un coup de tête ou s'arrêter pour souffler. Se sentir esclave du travail, des animaux. Capucine et Adrien n'en souffrent pas. Ils se sentent bien dans leur cocon vivant. Ils s'arrêtent quand ils le souhaitent pour quelques instants de répit. Bavarder avec un voisin de passage, profiter des derniers rayons du soleil, se promener à l'ombre des grands arbres, dans le vent chaud d'été quand la canicule écrase le potager. Le grand arrive en fin de matinée. Il salue les autres de loin sans descendre de sa moto. Karine s'installe derrière lui, le temps de faire un signe de la main à Clémence et l'engin redémarre. J'ai prévu une après-midi bucolique. La vie tout entière est bucolique dans les Vosges, non ? Si, mais certains endroits sont magiques. Karine a enlacé sa taille, a fermé les yeux un instant. Elle se laisse bercer par les courbes de la route. Certains moments sont magiques aussi. Une poignée de minutes plus tard, ils se garent sur un parking discret au milieu de la forêt qu'une petite route étroite traverse. L'homme a prévu un pique-nique. Il range les casques dans le coffre après en avoir sorti une glacière. Puis il entraîne Karine sur le sentier en la sommant de fermer les yeux. Il passe un premier panneau d'information, puis un deuxième. Frédéric vérifie qu'elle n'a pas triché. Il désire lui offrir la surprise du lieu. Il se chargera des explications. Élève bien les pieds, il y a des racines partout. Elle aime se laisser guider par cette main chaude et déterminée. Il s'immobilise après quelques minutes de marche. Tu peux regarder. Karine découvre alors, au milieu des grands arbres, une vaste étendue de roches granitiques énormes, arrondies par le temps, empilées sur une surface dénuée de toute végétation. Seul un grand sapin, un véritable héros, a réussi à se faufiler entre les pierres. Impressionnant, non ? Fascinant. Comment est-ce possible ? Pléistocène supérieur, paléolithique moyen. Il y a 50 000 ans, la fin d'une période glaciaire fait fondre un glacier ici présent. Il abandonne les roches qu'il charriait lentement. 400 mètres de long, 40 de large, sur une hauteur de 7 à 8 mètres. Un champ de roches que l'homme de Néandertal a foulé. Et depuis 50 000 ans, rien n'a bougé. De quoi donner le vertige et nous sentir petits. Et cet arbre au milieu? Un survivant, un warrior, un opportuniste. Une graine portée par le vent ou par un rongeur aura trouvé un petit tas d'humus issu d'un amas de feuilles. Et doucement, il s'est constitué son substrat pour pousser en milieu hostile. Karine pense à Clémence, au champ de roche dans lequel elle est née, et à cet humus qu'elle se fabrique au contact des fleurs. Son envie de pousser après avoir végété. Elle doit l'emmener ici pour lui montrer la résilience, l'acharnement, la victoire du vivant sur le minéral, du mouvant sur l'inerte. Son guide s'est éloigné vers le grand guerrier, le seul à proposer une auréole d'ombre à ses pieds. L'homme teste plusieurs roches, cherche la plus vaste, la plus plate, la plus confortable pour installer le déjeuner. Sur une serviette, il a déposé une boîte hermétique remplie d'une salade composée, deux fourchettes, un couteau suisse, du saucisson, des tomates cerises, une demi-baguette, une bouteille d'eau. Je n'ai pas pris d'alcool. Karine ne répond pas. L'intonation de sa voix lui a suffi à comprendre qu'il veut mettre le sujet sur la table. Une table qui pèse plusieurs tonnes comme son estomac à Soudain. Aurait-il remarqué qu'elle se laisse facilement aller? Qu'une habitude s'est instaurée pour la détendre et lui faire oublier son passé? Bien sûr qu'il s'en est rendu compte. La promiscuité des fouilles, l'haleine chargée de vapeur d'alcool dès le matin, la consommation excessive au restaurant, ce côté festif qu'elle revendique et derrière lequel elle se réfugie. Il la contemple sans un mot, la laisse se dépatouiller. Elle a enlevé ses baskets et ses chaussettes, malaxe ses orteils vernis sans fourmis fossilisées, n'ose pas lever les yeux vers lui. Karine sent son regard sur elle, intense et déterminé. Il ne lâchera pas et use du silence pour la faire parler. Je ne dis rien, mais je sais. Karine tente un petit rire nerveux en ouvrant le flacon de gel hydroalcoolique, puis saisit le couteau, attrape la charcuterie. Noyer le poisson avec du saucisson. C'était prémédité? Le pique-nique? Interrogatoire. Je t'ai posé une question? Tes yeux le font. Mes yeux te couvent parce qu'ils te trouvent belle et qu'ils sont tristes de te voir t'abîmer dans l'indifférence générale. Karine est touchée. Il aurait pu se jeter sur elle, la culbuter au milieu des rochers, sans chercher à creuser le tas de débris qu'elle cache sous sa peau désirable. Lui aussi a ôté ses chaussures. Il tend un pied, caresse de son orteil les ongles rouges. Elle sent une émotion la traverser. Elle n'a plus envie de vibrer ni de jouir, mais d'être réconfortée. Des larmes envahissent ses paupières. Elle sourit plus fort pour les annihiler. Elle déborde quand même sans qu'elle puisse rien faire. Elle sent la large main de l'homme empoigner sa nuque et la bercer doucement. « Laisse-toi aller. » Il est heureux qu'elle se soit si vite sentie en confiance avec lui. Elle se met alors à parler de ses mois passés à osciller entre l'envie de s'accrocher à ce poste qui lui plaisait tant, à cette équipe pédagogique avec laquelle elle avait créé des liens, et la peur quotidienne que l'autre vienne, dans son costume de chef d'établissement, lui faire des avances à peine déguisées ou, selon les jours, la dévaloriser en public à coups de remarques acerbes concernant son travail, sa tenue, son comportement. Tout était prétexte pour la harceler, la faire souffrir, la pousser à bout. Emploi du temps sans cesse modifié, témoignages inventés de parents en colère pour lui faire peur, l'humiliation parfois devant ses élèves. Jusqu'au jour où son corps n'a plus voulu avancer. Elle n'a même pas eu la force de prévenir le collège de son absence. Une collègue, inquiète, est passée en début d'après-midi, et Karine n'avait pas réussi à s'extraire de son lit jusque-là, retenue au drap par un aimant constitué d'une lassitude extrême. Elle était méconnaissable. L'adorable professeur de sport l'a portée jusqu'à la douche, l'a habillée, coiffée et emmenée chez le médecin. Karine, toujours pleine d'entrain et d'énergie, ne soupçonnait pas que l'on puisse ainsi s'effondrer. Pourquoi tu n'as pas cherché du travail ailleurs avant d'en arriver là?
Parce que ce n'était pas juste que ce soit moi qui parte.
C'est pas juste non plus de tirer sur la corde au point qu'elle lâche.
Je sais bien, mais on se le dit après, quand il est trop tard.
Elle évoque son manque de confiance, sa peur de ne pas plaire, celle de ne pas être aimée, cette bataille permanente pour rester vivante. Et les moments de paix,
quand elle s'est enivrée. Elle a seulement besoin de se sentir un peu légère. Légère et souriante. Juste de quoi déconnecter une poignée de câbles entre ses neurones. Précisément ceux qui la font douter, craindre ou se souvenir du passé. Ne garder que ceux qui font rire et prendre les choses avec désinvolture. Parfois, n'en garder aucun, tout coupé, brouillard total. N'habiter que son corps. Oublier la tête, oublier le cœur, oublier le monde et les ordures qui le peuplent. Pour quelques heures, quelques minutes, même pour quelques secondes, elle aime le vertige. Confortablement installée dans son coussin nuage, à flotter au-dessus de ses faiblesses, comme après un fou rire sans fin, une séance intensive de sport, comme après l'amour. Certains répits sont précieux pour tenir, ne pas exploser en plein vol. Mais elle admet que le recours à cette béquille est de plus en plus fréquent. Avoue les quantités qu'il faut augmenter pour atteindre le même effet. Elle avoue aussi la honte.
Chez une femme en plus,
ironise-t-elle. Elle fait semblant de boire pour s'amuser, alors que c'est pour survivre. Elle évoque ce médecin qui a tenté de l'orienter vers un addictologue. Elle n'a pas donné suite. Même devant un professionnel, elle avait envie de se cacher. Mais elle s'en sortait bien ainsi, jusqu'à aujourd'hui, non ? Non. Il est catégorique. Elle le sent. Elle le sait. Elle doit se soigner pour retrouver sa place dans la société, redevenir active, enseigner. Elle aimait les élèves et leur mauvaise humeur, leur chagrin d'amour et leurs immenses histoires d'amitié dans les couloirs trop petits du lycée. Elle aimait leur donner envie de comprendre les guerres, les territoires, les civilisations. Elle aimait les intéresser.
Je ne sais pas comment faire pour en sortir.
Prendre conscience, déjà. Le reste suivra. Il l'a attirée contre lui, entre ses jambes. Ils n'ont pas mangé, pas de place dans le ventre. Il regarde le champ de roches et les 50 000 années passées, la puissance que dégage ce lieu et leur humilité. Ils ne sont même pas des fourmis à l'échelle de l'humanité, juste des particules posées là un insignifiant instant. Imagine tout ce qu'il y a eu avant, tout ce qu'il y aura après. Ces roches sont encore là pour des milliers d'années, et tu te détruis de ne pas te sentir aimé.
Tu n'en as pas besoin, toi ?
Sûrement, mais je ne compte pas sur les autres pour combler mes failles.
Tu ne te sens jamais seul ?
Jamais. Tu vois bien, je fais 1000 rencontres avec des morts et des vivants, et quand je m'ennuie, je prends ma moto, ou je vais faire du sport.
Tu n'as pas d'enfant ?
J'espère que non. Dans ce monde de dingue, non merci. Il évoque les accidents de train, d'avion, les assassinats et les viols, les victimes, les soirs d'orage où il travaille sous des trombes d'eau ou dans un froid polaire au sommet d'un col enneigé, les cris des membres de la famille quand il faut annoncer le pire, ces hurlements qui résonnent dans sa tête les nuits suivantes lorsque le sommeil l'oublie. Ces moments où il aurait envie qu'on interdise à des parents de le devenir. Le peu de valeur qu'a une vie aux yeux de certains, souvent pour des conflits qui ne sont que broutilles. La fatigue de se sentir certes utile à la résolution de certaines enquêtes, mais impuissant à changer la nature humaine. Les envies de cogner parfois, quand les coupables se trouvent sur les scènes où il t'appelait. Et la rage qu'il ravale, avec un goût acide dans la gorge. Karine écoute en silence. Elle n'ose même pas imaginer tout ce à quoi il se trouve confronté.
Comment fais-tu pour tenir ?
Il tient par le rire, le mouvement, la culture, la beauté, s'entoure de personnes positives et exclut les autres sans ménagement. Il tient en serrant une femme dans ses bras. Le grand se met à chantonner les paroles de Souchon. La vie ne vaut rien. Rien. La vie ne vaut rien. Mais moi, quand je tiens, tiens. Mais moi, quand je tiens, là, dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là, je dis rien. 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 Rien ne vaut la vie. Il chante juste, ses deux mains sous le t-shirt de Karine qui sent venir un tressaillement. Rien ne vaut la vie. Rien ne vaut l'amour. Elle aurait envie de se retourner, de se déshabiller, de le chevaucher dans le vent,
à l'ombre du conquérant des rochers. Mais une famille se promène sur le sentier en amont. On entend les enfants crier. Elle remballe son désir. Et puis aussi sa honte. Elle a envie de croire que, pour de vrai, rien ne vaut la vie. Et cet homme n'est pas tombé du ciel par hasard pour l'aider à en prendre conscience. Allez, on bouge. J'ai un autre lit de beauté à te faire découvrir.